Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Bonjour à toutes et à tous, les podcasts s'enchaînent en ce début de saison après la présentation générale de National League avec Gary Sheahan en fin de semaine dernière. On s'intéresse aujourd'hui à Fribourg-Oteron avec un invité et pas n'importe lequel, un fidèle de notre podcast, Christian Dubé, entraîneur et directeur sportif des Dragons. Salut Christian.
Bonjour.
Alors troisième saison de notre podcast Point de vue, et ça doit déjà être la troisième ou quatrième fois que tu viens à notre micro. On va bientôt pouvoir te proposer une carte de fidélité. Pour nous accompagner aujourd'hui, un homme qui a aussi choisi la Ligue des Champions pour se préparer, Pierre Chouvet, qui était en Finlande et en Norvège le week-end dernier pour suivre les derniers coups de patin de Fribourg-Oteron avant la reprise. Salut Pierre.
Salut François, plaisir de partager ton micro, littéralement.
Oui, exactement, un petit problème de micro, deux micros pour trois, mais ça va le faire, on va s'arranger. De toute façon, c'est surtout Christian Dubé qu'on veut entendre aujourd'hui. On commence quand même par... Le petit sujet compliqué du week-end, le voyage, tu t'en es remis, Christian?
Oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais à la fin, on sait quand on joue des compétitions comme ça, ça peut toujours arriver, ça m'est arrivé moi-même, donc j'avais averti les joueurs qu'il faut quand même rester calme et voilà, prendre ça du bon côté.
Est-ce que t'as retrouvé, est-ce que l'équipe a retrouvé toutes ses affaires?
Alors, Reto a retrouvé son sac d'équipement hier soir et David Desbichères et moi-même, nous n'avons pas encore notre valise. Donc, nous sommes en attente.
Donc, tu n'as pas ton plus beau costume pour la reprise de vendredi.
Exactement, je dois aller faire du shopping avant de commencer.
Eh bien, ça va bien parce qu'on a reçu plein de questions et on vous en remercie, chers auditeurs. Et une des questions, c'était justement de savoir comment allait être ton premier costard cette saison. À quoi il va ressembler?
Alors, c'est une bonne question. Je ne me suis pas encore attardé à ça parce que j'ai une équipe à préparer. Puis, je pense, le soir d'avant, on y réfléchira tranquillement.
Celui de Noël est déjà commandé, par contre?
Non, pas encore. On n'a pas encore abordé le sujet.
Donc, c'était Lucie Elfer qui nous a posé cette question. On la remercie. On en aura plein d'autres tout au long de ce podcast. Juste sur ce voyage, Christian, les joueurs... Comment ils le vivent? Ils sont un peu fatigués quand même au retour. En même temps, il y a cette cohésion d'équipe. On parle toujours de ça. C'est quand même important. Ça soude le groupe.
Oui, c'est un bon voyage pour nous. Bon, déjà deux victoires. C'était deux victoires importantes. On a joué de la bonne manière aussi. Je sentais l'équipe impliquée. Les conditions de voyage n'étaient pas optimales. C'est clair, quand tu arrives, même le jour même, on n'avait pas nos sacs à 11h, plusieurs joueurs, 8 joueurs manquaient leur sac, donc c'est pas optimal pour préparer le match. On n'a pas eu de glace le jour même, le jour d'avant non plus, donc faut faire avec. Et puis on a été capable justement de mettre ça de côté, puis de pouvoir performer. Donc, mais le retour aussi, on est arrivé hier soir à 11h pratiquement, donc il y a une certaine fatigue, oui.
Pierre, toi qui as suivi ces deux matchs de près, sur place, comment tu as trouvé ce Fribourg-Oteron?
Solide. Je pense que quand on fait deux déplacements et qu'on n'encaisse pas de but, surtout vu les conditions du deuxième match, ben c'est réjouissant avant le début de championnat. Je pense notamment au match contre Stavanger sur une glace plus petite que d'habitude. C'est Julien Sprunger qui le disait, Christian t'a aussi confirmé, sans avoir mis les patins. Alors quelques-uns avaient fait un peu de patinage artistique le matin, mais sans véritable entraînement. C'était réjouissant. On voit que le système est en place, qu'il y a des habitudes, que les nouveaux prennent gentiment le pli. Je pense que c'était difficile de rêver meilleure fin de préparation. Je ne sais pas si tu es du même avis, Christian.
Je pense que le jeu défensif est excellent. L'implication aussi qu'on n'avait pas eu ici à la maison contre Stavanger. Donc, pour moi, c'est le point principal. Et puis, on n'a pas paniqué. On a continué à pousser. Puis, à la fin, ben voilà, les unités spéciales ont fait la différence, comme plusieurs fois l'année passée pour nous. Donc, ça, c'est réjouissant. Et puis, c'est sûr que notre jeu à 5 contre 5, j'aimerais un petit peu plus d'offensive et de créativité. Mais c'était pas facile là-bas, vraiment, contre cette équipe-là qui est habituée de jouer à la maison sur une petite glace. Donc, il y a peu d'espace. Je leur donne crédit. C'est une belle équipe de hockey, vraiment. Je pense qu'il surprendrait plusieurs dans des plus hautes ligues. Donc, non, c'est comme tu as dit, je pense que c'est quand même assez réjouissant. Et puis, ça nous donne une certaine confiance pour commencer cette saison.
Si on revient à quelques semaines en arrière, cette préparation, comment tu l'as tu l'as vécu. Il y a eu l'arrivée, comme toujours, de quelques nouveaux joueurs. Il y a surtout une dernière saison qui était très bonne. Du coup, tu fais quoi? Un copier-coller et tu repars sur les mêmes bases ou tu essaies d'amener des choses différentes aussi pour les joueurs qui sont là depuis plusieurs années?
C'est toujours le discours que j'ai. Maintenant, c'est ma quatrième saison en tant que coach. Tu peux pas avoir le même discours toujours, sinon les gars n'écoutent plus trop. Donc, j'essaie d'apporter des petits changements, des choses un peu plus frais pour retenir leur attention. La préparation s'est bien déroulée. On n'a pas une tonne de changements, mais tu as quand même 4 étrangers qui arrivent. Donc, puis c'est des postes importants. Donc, pour le power play, pour les lignes, il y a des changements. Les combinations ne sont pas les mêmes que l'année passée, à part peut-être la ligne à Valserre. Mais sinon, il y a des automatismes à trouver. Sorensen qui est out pour un bon bout. Donc, ça change encore une fois un peu le power play et les lignes. Mais c'est comme ça. On a une belle équipe de hockey. On a des gars qui peuvent jouer à différentes positions. Et puis, ça nous donne des belles options, ce qu'on n'avait pas beaucoup dans les dernières saisons. On tirait beaucoup sur une ou deux lignes, un power play. Donc, cette saison, on a vraiment plus d'options. Mais je pense que la plupart des équipes, c'est comme ça aussi.
Tu le disais avant, Christian, tu as dû refaire un petit peu tes lignes offensives. Celle de Valserre est restée la même. Il y a eu quelques changements avec notamment aussi la réintégration de Delarose dans ton équipe en vue du match de vendredi, qui évolue avec Motet et puis Bikoff à cet entraînement. Tu disais peut-être que tu voulais garder l'association Motet-Berchi. On part visiblement sur un autre plan. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
Après réflexion, après discussion aussi avec mon staff, Kylian et Christophe sont deux joueurs qui aiment beaucoup le puck, avoir le puck, et je trouvais qu'ils étaient joués un petit peu à... ça tournait beaucoup dans la zone, mais un petit peu pas assez direct au but, donc encore là, c'est pas définitif, ça peut toujours changer, ça va changer durant la saison, mais là, je vais essayer d'avoir Christophe avec David pour commencer. David, on sait que c'est un gars qui distribue bien les pucks, donc j'essaye de trouver une chimie avec Christophe. Mais comme je l'ai dit, ça peut changer en cours de match aussi. Donc, j'essaie toujours d'apporter des petits changements pour avoir cette étincelle qui puisse te donner ce petit plus.
Un de nos auditeurs, Sebre5, est étonné justement que le duo Motet des Harnais soit pas reconduit alors qu'il fonctionnait bien. C'est pour équilibrer ton équipe ou...
Non, mais des fois, à discuter aussi avec les joueurs, c'est bien d'essayer des choses différentes. Puis je sais que je peux retourner à ce duo, donc c'est une bonne ligne. Donc j'aimerais avoir Kylian avec Delarose, voir ce que ça donne. Et puis David, lui donner aussi une vue différente avec un autre joueur. Donc on verra, mais je sais très bien que j'ai quand même des certitudes avec Kylian et David. Ils jouent sur le power play ensemble aussi. Donc à voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je vais essayer d'autres choses.
C'est le plus important pour toi dans cette préparation, c'est d'avoir ces lignes, de trouver ces automatismes ou c'est quoi les priorités d'une préparation?
C'est de voir qui fonctionne bien avec qui. Donc, comme je l'ai dit, je sais que certains joueurs fonctionnent avec certains joueurs. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de les essayer. Mais je veux essayer de voir d'autres choses. Il faut se préparer aussi à des blessures. Si ça arrive, qu'est-ce qui peut fonctionner? Donc, je l'ai vécu aussi en tant que joueur. Je savais que ça fonctionnait avec un tel joueur. Mais on m'essayait avec d'autres pour voir qu'est-ce qui pouvait fonctionner comme plan B éventuellement. Puis si ça se met à bien aller, tu restes comme ça. Donc, c'est ce que je fais présentement.
Tu as parlé du mot blessure, tu as prononcé le mot blessure. Il y a eu une inquiétude autour de Reto Berra et la blessure de Sorensen. Alors pour Berra, c'est pas trop grave puisqu'il a rejoué, ça a l'air d'aller. Donne-nous des nouvelles, c'est bon, il sera.
Ah oui, non, ça va bien. Reto va très bien. Je pense qu'il l'a montré aussi lors des matchs, donc non, ça va très bien.
Sorensen, par contre, il va manquer un moment. C'est, on dit quoi, une blessure bête ou ça fait partie du hockey?
C'est bête, oui, dans le sens qu'il y a une échauffourée, son doigt reste pris dans le pull de l'adversaire et puis le doigt, il est à l'écart après. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en même temps, le gars était là dans la bagarre pour protéger Kylian et ça fait partie de la game, comme on dit.
Justement, tu as plutôt envie de le féliciter parce qu'il s'est impliqué.
Je préfère ça que j'ai joué une équipe qui soit unie, qui se protège les uns les autres. Ça fait partie, c'est de la malchance, mais c'est comme ça. Ça fait partie du sport.
Ça nous donne l'occasion de poser une deuxième question de Sebre5 qui se demande pourquoi il n'y a pas eu d'engagement d'étrangers supplémentaires. Est-ce que c'est lié au marché? Vous n'avez pas trouvé ou une question de budget?
Alors, il y a les... Le marché, déjà, la plupart des joueurs veulent s'engager pour une saison complète. Pour l'instant, c'est pas possible financièrement. Et voilà, trouver un joueur pour un mois puis que ça soit un joueur moyen, je préfère avoir confiance à mon groupe, donner la chance à mon groupe. Je donne la chance aux coureurs, je leur ai dit. Si ça fonctionne pas, on va regarder vraiment sérieusement pour engager quelqu'un. Mais pour l'instant, je voulais voir déjà au Nord comment ça allait se passer. Je pense qu'on a quand même montré que les gars sont solidaires. Et puis, ça fait partie... C'est parti d'une saison. Il va y avoir des blessures. Il faut que tu sois capable de te regrouper. Je voulais voir ce que ça allait donner. Puis je pense qu'on a fait le job. Donc, l'option est encore ouverte. Mais pour l'instant, j'y vais comme ça.
On a parlé de Sorensen, de Berchi. Est-ce que les autres recrues te donnent satisfaction? Notamment Vainio, qui est droitier, qui joue à gauche, qui doit un petit peu s'habituer à ce nouveau rôle. Tu le disais dernièrement, il s'habitue gentiment.
Youssou va en montant, en puissance. Je pense que le match à Stavanger était très, très solide physiquement aussi. C'est un gars qui aime jouer physique, à compter le vest, très bien joué aussi. Donc, il commence à prendre ses marques tranquillement. Je l'avais mis avec Souter, maintenant il joue avec Diaz. Donc, c'est une bonne paire, ça va bien ensemble. Kwakanen, comme je l'ai dit depuis le début, c'est une très belle surprise pour moi. Il est de plus en plus à l'aise, hein. Il a 23 ans, il ne faut pas oublier. Mais ça va super bien avec Sandro, il y a une bonne chimie les deux ensemble. Très belle surprise. Après, Joël, c'est un gars qu'il ne faut pas oublier, qui arrive de la Swiss League, donc une adaptation de vitesse et tout ça, mais il a une très bonne attitude, il travaille fort, donc on continue de travailler avec lui. Et puis, vraiment jusqu'à maintenant, tous nos nouveaux donnent ce à quoi je m'attendais, là, donc il n'y a pas de surprise.
Les directeurs sportifs parlent toujours du fameux pulse à créer en début de saison avec ces pièces qui sont rapportées pour améliorer l'équipe. Vainio, c'est surprenant quand même d'avoir pris un droitier, ou c'est le profil du joueur, c'est son expérience. Qu'est-ce qui est déterminant dans ce recrutement, puisqu'il y a déjà passablement de droitier à Gauthéron?
Oui, mais c'est le tout du joueur, c'est-à-dire c'est un gars qui est très stable, qui est très, tu peux avoir confiance. Quand je lui ai parlé, s'il m'avait dit je peux pas du tout jouer à gauche, je l'aurais pas engagé. Donc déjà, il m'a dit oui, je l'ai déjà fait. Ça fait quelques années que je l'ai pas fait, mais pas de problème, je vais m'adapter. Il a gagné. C'est un gars qui est très professionnel, très calme. Donc c'est un peu. Puis il a aussi le budget et tout ça. Donc les négociations, ça faisait beaucoup de sens pour nous. Et puis voilà, on a été de l'avant comme ça.
Dans l'actu chaude de Gauthéron, il y a le prêt de Dominique Bignas à Turgovie en licence B, avec les blessures de Sorensen, Jobin. Le prêt, ça veut dire que tu commenceras la saison avec 12 attaquants. Il n'y a pas, disons, de marge directement. C'est pour toi pas un souci.
Je peux le rappeler à n'importe quel temps. Donc ça, c'est clair que si je venais avoir une blessure, il va revenir. Avoir Dominique comme 13e, ça fait aucun sens. Il doit jouer, il doit avoir du temps de power play. C'est un gars qui est offensif, il doit jouer sur une ligne offensive. Pour l'instant, c'est pas possible ici. Donc, on va commencer à 12, puis on va avoir un U20 avec nous.
Ça me permet de poser la question de Chloé D1993, qui se demande pourquoi pas engager plus de jeunes joueurs suisses qui attendent qu'on leur donne une chance. Est-ce que... Alors, on sait que les places sont chères maintenant avec les étrangers. Il y a des jeunes, il y a Bignas, il y a Jobin, et on voit que pour eux... C'est difficile déjà de se faire une place. Est-ce qu'il y a la volonté de, peut-être, dans cette question aussi, de rajeunir un peu l'effectif, de recruter plus jeunes?
Déjà, moi, j'ai aucun problème d'avoir des jeunes. On a Sandro Schmidt qui a 22 ans, mais il faut avoir le niveau aussi. Donc, on l'a vu avec Dominique. Je pense, Pierre, tu as vu lors des matchs ici en haut qu'il y a des très bonnes choses, mais il n'est pas encore là du tout. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec 6 étrangers par équipe, la hiérarchie a changé. Tu as 2 étrangers, 2 joueurs de qualité de plus par équipe. Ça fait qu'il y a certains qui baissent dans l'alignement. Donc, c'est comme ça, c'est la réalité. Je pense que toutes les équipes, vous pouvez regarder, c'est un peu la même chose. Tu as des gars maintenant qui étaient à la limite de faire l'équipe ou de jouer, bien là, ça baisse. Donc, c'est comme ça. Quand tu dis notre quatrième ligne ou un de nos 4 lignes, c'est Valser, Mauroyorg et puis Mathias Rossi, puis j'ai encore un 13e à travers ça, si t'as pas de blessure et t'as Gaétan Job. Donc, ça fait beaucoup de monde. C'est la réalité du hockey suisse présentement. Ils ont décidé d'augmenter à 6 étrangers. Ben, malheureusement, il y a des joueurs qui payent là-dessus et qui payent là-dedans. Et puis, un jeune pour intégrer la première équipe, maintenant, doit avoir un top niveau. C'est comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que le coach est très heureux de cette augmentation du 6 à 6 étrangers parce que voilà, tu as t'as forcément des meilleurs joueurs, des joueurs plus accomplis à coacher, mais que le directeur sportif, lui, voilà, peut-être qu'il se pose quelques questions aussi pour les plus jeunes, pour les mouvements juniors.
Ben, moi, je suis mitigé là-dedans parce que si on augmente à 6 étrangers, ils devraient avoir un plafond salarial, c'est clair. En Suisse, ils ont de la peine avec ça. Les équipes qui ne sont pas pour ça, mais ça peut créer encore un plus gros trou entre les tops. Les équipes qui ont plus de budget et les équipes qui n'ont pas de budget. Donc ça, c'est la réalité. Donc, je suis vraiment mitigé. C'est sûr que c'est le fun quand tu as 6 tops étrangers et tout ça, puis c'est le fun à coacher, mais ça nuit sur d'autres choses aussi. Il y a le problème de la Swiss League à travers ça aussi, donc c'est assez complexe. C'est assez complexe.
Alors, c'est l'occasion de s'intéresser aussi aux autres équipes. On va parler des ambitions de Fribourg-Oteron pour ce championnat, officiellement. Donc, c'est le top 6, comme à peu près toutes les équipes de National League. C'est un objectif qui te paraît cohérent et logique parce que tout est tellement serré. On ne va pas annoncer un rang au mois de septembre.
Ah, c'est impossible. Vraiment, là, on dit dans la dernière année, c'est le plus serré, mais c'est la réalité. Tu as 10 équipes, comme tu le dis, que le but est de finir top 6. Ça veut dire que sur 10 équipes, tu en as 4 qui sont pas contents. C'est 40 %. C'est presque une équipe sur deux qui réussit pas son but de finir top 6. Donc, c'est énorme. Donc, c'est vraiment, c'est pas de la loterie, mais des fois, tu es à un point de terminer 6e, puis tu termines 8e ou 9e. Donc, ça joue vraiment à des riens. On veut finir top 6, mais un rang. Tant mieux si on finit plus haut que ça, mais vraiment, de finir top 6, c'est déjà un gros challenge. C'est la réalité, donc on va s'en tenir à ça.
Bon, tu me connais, j'ai un petit côté taquin. Mm-hmm. Donc là, il y a 2 ans, vous étiez 3e, l'année passée 2e. En sport, on veut toujours faire mieux. Mm-hmm. Donc, est-ce que Gauthieron ne devait pas annoncer on vise la première place cette année?
C'est ce que j'ai dit. Quand tout le monde dit « Ouais, il faut faire mieux cette année », ben c'est quoi faire mieux? On peut seulement être premier ou aller en finale, pratiquement. Donc, faut être réaliste que... De Berne, ça fait quoi, deux années de suite qu'ils font pas les playoffs ou 3 années de suite qu'ils font pas les playoffs? Ils ont mis une tonne d'argent. Genève, ils ont été en finale l'année passée, ils n'ont pas fait les playoffs. Donc, je dis pas qu'à un moment donné, c'est ton tour, mais que d'aller toujours en améliorant, quand les autres équipes s'améliorent aussi, ça devient compliqué. Donc, on veut une certaine stabilité. On fait pour, mais t'es pas à la... Des fois, il y a des surprises. Ça ne va pas toujours comme tu penses, mais on a tout pour bien faire. Maintenant, faut que ça fonctionne. Et puis, mais c'est un gros challenge, je le répète. On peut très bien terminer premier comme on peut terminer 7e. C'est la réalité d'aujourd'hui.
Avec une équipe peut-être mieux taillée pour les playoffs qu'elle ne l'était l'année passée.
Ben, c'était le but. Avec un gars comme Delarose, Vignon, c'est deux gars qui apportent justement du poids. Puis ils jouent solide, ils jouent... méchant, si on peut dire, ils aiment ça. Donc, puis Sorensen, c'est un gars qui est compétiteur aussi, très talentueux, mais très compétiteur. Donc, je pense, comme tu dis, Christophe aussi, qui est un gars qui est très solide physiquement puis qui adore il adore les playoffs. Je pense qu'on a une équipe, oui, qui est plus solide.
Top 6, ça veut peut-être dire ne pas avoir l'avantage de la glace quand on voit comme ça vous a aidé de jouer à domicile avec le bilan que vous aviez l'année passée. Je ne sais même pas, quelques défaites, je n'ai plus en tête les chiffres, mais énormément de victoires, une belle ambiance dans la patinoire, ça c'est quand même important et ça va vous aider justement à être performant à domicile.
On espère, oui. Ça a été notre force l'année passée, donc c'est sûr qu'on... déjà, on veut se qualifier pour les playoffs, puis si on pouvait commencer à la maison, c'est bien, mais... En même temps, quand tu as confiance en ton équipe, il faut que tu sois capable de gagner des matchs à l'extérieur. Donc, ça ne m'inquiète pas vraiment, mais c'est sûr que je préfère jouer à la maison qu'à l'extérieur parce qu'on a on est ici à tous les jours, donc on a confiance et puis on connaît, c'est la maison.
Vous êtes habitué quand même à jouer maintenant sans Chris Di Domenico, qui était un peu votre rampe de lancement l'année passée sur les... Sur les fins de match, c'est clair que quand il fallait égaliser, c'est lui à qui on donnait le puck pour traverser la glace. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que votre jeu va évoluer sans lui ou alors finalement, c'est qu'un joueur parmi d'autres et que...
Il va falloir jouer avec l'avance, comme ça on n'a pas besoin d'égaliser en fin de match. tout joueur est remplaçable. Je l'ai dit, est-ce que c'est dommage qu'il soit parti? Oui, mais en même temps, t'as d'autres joueurs qui arrivent et puis qui on va être différents, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va être moins bon? Non, je pense pas. Donc, chaque joueur a des qualités et des défauts. Chris, je l'ai adoré. Mais il y a, ça a été aussi des fois challenge pour le coach et tout. Et, mais on l'a bien géré, puis je le reprendrai dans mon équipe. Mais voilà, les choses avancent, puis il ne faut pas que tu... Pas que tu regardes dans le rétroviseur, si on veut dire. Donc, je suis très content de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Elle me satisfait plus que l'année passée de, sur la profondeur et sur j'ai beaucoup plus de qualité. Donc, non, je suis très content.
Quel style de jeu tu veux donner à ton équipe? On disait, ben voilà, le départ d'un joueur, ça modifie un peu la façon d'évoluer peut-être aussi. Il y a peut-être des points sur lesquels tu as plus insisté durant cet été que l'année passée parce que voilà, vous avez franchi des étapes supplémentaires. C'est quoi les quelques points prioritaires pour toi?
Bon, on ne change pas notre ADN. Hein. Je suis un gars qui aime le jeu rapide. J'aime qu'on crée offensivement aussi sans laisser la défensive. Donc, on essaye de... d'avoir un mix. Je pense que on va avoir un Fribourg qui est encore rapide, qui veut avoir le puck, qui veut dicter son match puis dicter le ton au match. Donc je pense qu'on se doit de jouer comme ça, puis je veux une équipe agressive. Donc j'aimerais qu'on évolue là-dessus et que quand disons on gagne en troisième tiers, qu'on subisse pas, mais qu'on continue à jouer de la même manière. Donc, je pense que l'année passée, on avait fait un pas en avant par rapport à il y a 2 ans. Et puis, j'aimerais qu'on continue dans ce sens-là.
Tu parlais de la profondeur et de la qualité. Elle vous permet d'avoir un deuxième power play qui voilà, peut être plus dominant que ce qu'il a été ces 2 dernières années. Enfin, pas beaucoup joué non plus, ce deuxième power play. Est-ce que maintenant, il y a toujours une hiérarchie, premier power play, deuxième power play, ou tu les mets presque sur un pied d'égalité et tu les mettras en premier en fonction de ce qu'ils ont fait dans le match?
Non, mais c'est exactement ça. Je pense que tu as pu voir aussi qu'il y a des matchs, c'était le deuxième, entre parenthèses, qui jouait plus. À Stavanger, c'est le power play de David qui ont marqué 2. Ici, contre Ilves, c'est le contraire. Donc, que le meilleur gagne, comme on dit. J'ai dit ça aussi aux gars, que c'est fini 1 minute 30, 1 minute 40 sur le power play. Et puis voilà, celui qui va performer, c'est celui qui va jouer.
Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gérama.ch.
Romain Ediger nous demande, dans ton rôle d'entraîneur, un peu psychologue, comme ça, comment ça a évolué au fil des années? Est-ce que tu parles beaucoup plus avec certains joueurs, avec les jeunes? Comment ça se passe?
Demandez à Pierre, je pense qu'il a vu, comment ça se passait en haut.
Il arrive de faire quelques blagues.
Je pense qu'il faut changer. Moi, je suis un gars qui aime rigoler, qui aime avoir du plaisir, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça travaille. J'ai pas peur de serrer la vis quand il faut, mais j'aime avoir un discours ouvert avec les gars. Puis que les gars voient que t'es un des leurs, puis j'aime être un gars cool avec eux, puis de pouvoir rigoler, de pouvoir parler de la vie, la famille, je pense que c'est très important. Donc, on est comme ça avec Pavel et David. Garde aussi, on a un staff qui est assez proche des joueurs, puis les gars, ils sentent qu'on est humain, puis qu'on n'est pas, je suis pas leur patron. Oui, je suis leur patron, mais à la fin, j'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. Donc, c'est comme ça que je vois les choses et que je fais les choses.
À t'entendre, ça veut dire que tout au long de la journée ou de la matinée, quand vous êtes à la patinoire, il y a des petits échanges, il y a des petites blagues par moment, d'autres, ben voilà, forcément, c'est plus sérieux. Est-ce que tu fonctionnes aussi avec un peu des entretiens individuels, des choses comme ça, beaucoup avec certains joueurs, pas beaucoup avec d'autres? Tu t'adaptes à ça et c'est important pour toi, cet échange?
Oui, non, totalement. Toute la matinée, même sur la glace, hors glace, avant l'entraînement, après l'entraînement, je parle avec les gars. On peut parler de n'importe quoi, donc... s'ils ont besoin de parler, que ce soit pas juste moi, mais avec les autres du staff, Pavel fait exactement la même chose. Donc, je pense que c'est ce qui rend un joueur bien. Puis c'est ce qui. Je pense que c'est pour ça que les gars ont du plaisir à venir à la patinoire aussi. Ils sentent qu'on est une famille et puis qu'on n'est pas là pour les diriger. On est là pour les aider, puis on est là pour performer, puis avoir du plaisir ensemble, puis avoir une belle saison. Puis mon point numéro 1, c'est que. Tu viens à la patinoire, tu t'amuses en travaillant. Impossible que tu travailles si tu n'as pas de plaisir. Ça peut être au hockey, ça peut être journaliste, ça peut être n'importe quoi. Si tu n'as pas de plaisir à venir au bureau, venir ici, tu ne peux pas performer. Donc, je mets beaucoup d'accent là-dessus.
n'y a pas tout qui était parfait durant ce voyage au nord de l'Europe, mais est-ce que tu as senti que ça vous a permis, toi, même avec tes joueurs, de te rapprocher, même de certains que tu connais moins forcément qui viennent de débarquer?
Oui, c'est clair, parce que tu es toujours avec eux, même le soir, on mange ensemble, on est ensemble toute la journée, donc c'est sûr que c'est inévitable de te retrouver seul avec certains joueurs. Puis tu parles, même dans l'avion, tu es assis avec certains, donc... Mais voilà, tu parles de choses que tu parlerais peut-être pas si tu étais ici à Fribourg. Donc, je le dis toujours, des voyages comme ça, ça te rapproche, puis ça crée des petites histoires qui se passent. Et donc, c'est cool.
On entend de plus en plus souvent le mot titre prononcé à Gotteron ces dernières années. Nouvelle patinoire, des beaux transferts, une équipe en progression. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'assumé de parler de titre, ou des fois c'est un peu risqué, ou c'est faire rêver les gens et du coup après il y a le risque de décevoir? C'est la question de Florent notamment. Bah,
c'est un mix. Très honnêtement, je vais être très honnête là-dessus, que oui, tu veux gagner et tout, mais à Fribourg, pour gagner, il faut que les étoiles soient alignées sur plein de choses. Il nous manque, on a une ou deux blessures. On n'est pas comme des équipes qui ont quatre blessures, ils vont engager quatre nouveaux joueurs. On ne peut pas faire ça ici. Donc... je pense qu'on se doit d'être ambitieux, mais il faut aller étape par étape. Quand on a eu la nouvelle patinoire, le budget a baissé, donc il n'y a pas de miracle non plus. Pour engager des bons joueurs, des Reto Berra, des Diaz, des Berchi, ben ça coûte de l'argent. Il n'y a pas de miracle. Donc, avec la nouvelle patinoire, on voulait augmenter le budget. Là, on a eu le COVID qui est arrivé. Donc, notre but est encore vraiment de pousser pour ça, mais... On est plusieurs équipes à penser la même chose ou à vouloir la même chose. Regardez, Zug a gagné deux fois de suite. C'est qui les favoris cette année? C'est encore Zug, c'est encore Zurich. Donc, c'est comme ça, c'est la réalité. Est-ce qu'on veut en venir à gagner un titre? Oui, on n'est pas... Mais ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend du budget, ça prend plein de choses. Donc, les gens sont très ambitieux ici. Puis, c'est ce qui est risqué à Fribourg, c'est quand tu parles de titre ou quand tu parles de finir quatrième ou top 4 puis on finit cinquième, les gens sont déçus. Je comprends très bien. Fribourg est comme le Montréal. C'est exactement les Canadiens de Montréal, la même chose. Donc, faut que tu sois tempéré dans tes commentaires aussi, puis dans tes ambitions, parce que tu deviens à avoir des déceptions assez rapidement. Donc, l'année passée, c'était une saison extraordinaire. On a fini deuxième, étant demi-finale. Si cette année, on finit 4-5e, est-ce que les gens vont être déçus? Je veux dire, c'est comme ça. C'est le sport. Dans le sport, il n'y a jamais de certitude. Tu peux terminer premier une année puis être huitième l'année d'après. Il y a des choses qui se passent. Donc, mais on est là pour faire du bon boulot puis vraiment pousser pour aller le plus haut possible.
Et toi, tu serais déçu avec une cinquième place, par exemple?
Bien, ça dépend toujours des circonstances. Il y a eu 6 étrangers, il y a eu des étrangers de top qualité qui sont arrivés, des étrangers que tu veux, mais que tu ne peux pas te payer. Ils se retrouvent dans... Je veux dire, c'est comme ça. Est-ce que je serais déçu? Ça dépend toujours de comment ça se termine par la suite. Si on s'en va en demi-finale, puis si on s'en va en finale, ben non, t'es pas déçu. Donc, je me mets pas de barre d'un côté ou de l'autre. Je veux une équipe qui progresse. Et puis, regardez déjà, on a Sorensen qui est out 6 semaines. Ben, ça change les choses. Ça change les choses. Donc, t'as un plan. Ton plan est tout le temps remodelé, changé. Donc voilà.
Parmi les planètes qui doivent être alignées, il y en a une peut-être plus importante que les autres, Reto Berra. Forcément, quand il a eu quelques petits bobos, les gens se posent rapidement des questions. Toi aussi, certainement, que tu t'es... Tu as eu quelques inquiétudes. Est-ce que si tout d'un coup il venait à être blessé, pas seulement 2 semaines, mais disons 1, 2, 3 mois, tu as un plan B? Tu as déjà réfléchi en disant, ben alors là, si ça arrive, je prends un étranger, ou comment ça se passera?
Bon, déjà, on a Loïc Gallet qui est notre troisième gardien. Donc, si Reto était out quelques semaines, mais Connor, c'est un très bon gardien à discuter. Si Reto était out 6 mois, 4 mois, ben là, ça change les choses, c'est clair. Donc, j'en suis pas vraiment à réfléchir à ça présentement. Là, parce
un coup d'avance à chaque fois.
Oui, je suis d'accord. Mais on a déjà réfléchi alors. On a déjà réfléchi, mais on espère de pas devoir effectuer quelque chose. Donc, Reto, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu des petits trucs, blocages, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc, après, faut pas oublier que Reto aussi tranquillement prendre l'âge aussi, comme certains gardiens. Donc, c'est à moi de planifier ça aussi pour le futur.
Ça veut dire que peut-être que Connor Hughes jouera un tout petit peu plus de matchs que la saison passée?
On aimerait qu'il joue plus. Il nous a montré que c'est un gardien qui est capable de bien faire dans cette ligue. Donc oui, ça serait notre but d'économiser un petit peu Reto.
Ça veut dire que tu réfléchis déjà à l'après Reto Berra, ou c'est trop tôt quand même?
à voir vraiment comment ça va aller cette saison. Il y a encore un contrat la saison prochaine, donc on va voir comment ça va cette année. Mais c'est sûr que ses performances depuis maintenant plusieurs années sont excellentes. Donc s'il peut continuer comme ça, c'est sûr que c'est une police d'assurance.
On parlait avant de faire des choix, d'anticiper. Il y a une question de Bostrich qui dit à choisir, c'est championnat suisse ou Ligue des champions?
Ah, ben, c'est championnat suisse, il n'y a aucune comparaison. Même si c'est une belle compétition, la Champions League, à la fin, je pense que tout le monde sait que le championnat suisse, c'est ce qui prime.
Mais qu'est-ce qui est le plus facile à gagner, championnat suisse ou la Ligue des champions?
Ça, c'est une excellente question. Je te dirais que t'as moins de matchs à gagner pour gagner la Ligue des champions, je crois. Mais c'est vraiment une bonne question parce que tu joues vraiment contre l'élite en Europe. On sait que les Suédois sont très solides. Mais si j'avais à choisir, je pense que c'est plus dur de gagner le championnat suisse.
J'enchaîne avec une autre question de Kex1938 qui demande si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu changes maintenant à Fribourg-Gotteron?
Point de vue effectif ou point de vue...
j'ai que la question, moi, mais... Allez, t'as la baguette, tu peux changer tout ce que tu veux.
On me donne 2 millions de plus pour le budget de la saison prochaine.
T'as quelques noms qui t'intéressent.
Ben, c'est clair.
Justement, je voulais aussi te demander, il y a énormément de joueurs, de stars, de gros noms qui sont arrivés dans le championnat de Suisse. Alors, pas besoin de baguette magique, mais juste un petit rêve. Si tu pouvais attirer un joueur avec qui t'aimerais travailler ou que t'aimerais avoir dans ton équipe, ce serait lequel?
Du présent championnat qui est arrivé? J'aurais aimé avoir Artikainen qui était à Genève. J'ai été en discussion avec depuis plusieurs mois, puis ça s'est pas fait. Mais Lettonen en défense de Zurich aussi, Alex Tessier, excellent, qui est arrivé de l'Amérique. Donc il y a eu quelques joueurs qui sont vraiment du haut niveau.
Artikainen, ça s'est pas fait financièrement ou alors c'est parce que tu n'avais pas Linus Omark dans ton effectif?
C'est les deux.
Mais ces joueurs-là que t'as nommés, il y a des contacts, vous êtes quand même à un moment donné ou en discussion, vous vous positionnez, mais c'est pas possible de régater avec Zurich, c'est ça?
Comme Artikainen, j'avais discuté avec son agent qui représente des joueurs dans mon équipe, donc puis à la fin, c'était pas possible. Donc moi, je l'avais déjà signé de toute manière, Kuokkanen, parce que je voulais pas attendre. Et puis ce qui est pour Zurich, moi, mes gars étaient déjà signés, mais on sait que les ATS, c'est une équipe qui paye bien ses mercenaires. Donc c'est quand ces équipes-là rentrent dans les négociations, exactement, dans la danse, c'est toujours plus complexe.
On parle un petit peu de ce début de saison. On sait que c'est toujours très important de bien partir, d'être dans une bonne dynamique saison après saison. Les équipes qui partent bien, en général, elles arrivent après à surfer sur la vague. On peut quand même dire que le calendrier cette année, il est plutôt favorable à Gotteron. Vous commencez à la maison, vous allez à Ajoie, vous recevez encore après mardi Rapperswil. C'est plutôt bien comme calendrier pour toi, entraîneur?
À double tranchant. Hein? Je veux dire, Rapperswil, c'est pas une équipe de manche à balai, hein, comme on peut dire.
De jambon.
Exact, de jambon aussi. c'est des équipes qui performent. À Joie, ben, nouveau coach, motivation, ils veulent commencer aussi bien. Et puis Ambry, ben, on connaît Ambry. C'est pas une équipe qui est facile à jouer, agressive. Donc, je pense qu'on a une horaire pour bien faire. Mais voilà, après, c'est positif. On a eu une belle Champions League, on a gagné 3 matchs sur 4. Tout est ouvert. Je veux une équipe qui se bat. Si on en perd un, on en perd deux, ben voilà. C'est 50 matchs, comme 52 matchs. Comme tu le dis, la saison, il faut bien la commencer parce que souvent, si tu te retrouves en bas, c'est compliqué. Mais je me concentre sur le match par match.
On parle souvent de Zug, Zurich, pour les grands favoris au titre. Mais depuis cette année, avec les engagements, il y a aussi Lugano et Genève qui reviennent très souvent, qui sont cités. Pour toi, c'est deux adversaires qui peuvent viser tout en haut?
Moi, je vois Genève dans les favoris, avec l'engagement de Praplan, de Artikainen à la fin, de Lomark qui revient. Donc, je pense que Robert Meyer aussi ont deux gardiens. Je pense que c'est une équipe vraiment, vraiment solide. Lugano aussi a engagé des gars assez impressionnants. Donc, comme je dis, ça joue après à des riens. Hein. Je le dis toujours, mais l'aspect psychologie, va jouer beaucoup de choses cette saison. Il faut que le coach soit capable de vendre à son joueur son rôle. Ça, c'est une grosse, c'est un gros challenge pour nous parce que tu as des gars peut-être un peu moins bons qui jouaient moins de minutes, mais maintenant, tu regardes l'équipe, tu as 4 lignes, tu as 8 défenseurs qui sont de qualité et qui veulent jouer powerplay aussi. Donc, faut vraiment que tu sois capable de vendre aux joueurs qu'un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu plus à la fin.
Vendre des rôles aux joueurs est du rêve au public.
Exactement, comme toujours, quoi.
On peut se projeter aussi un tout petit peu plus loin que ce début de saison. Tu es entraîneur, évidemment, mais aussi directeur sportif. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Est-ce que ça change quelque chose, ça, pour toi ou pour eux? Est-ce que c'est plus compliqué à gérer ou plus facile? Peut-être qu'ils ont une motivation supplémentaire à te montrer qu'ils veulent prolonger l'aventure.
Bon, il y a deux manières de le voir. Ou deux manières de le prendre. Il y a un joueur qui va se stresser avec ça, et puis t'en as d'autres qui prennent ça cool et relax, et puis ils sont pas pressés de signer. Je regarde dans notre équipe, on a déjà Julien qui a re-signé, Kylian qui a re-signé, Sandro. Après, les étrangers sont tout le temps là, t'en as 6, qu'elle soit un ou l'autre, ça change rien. Donc, à la fin, il me reste pas tant de joueurs que ça qui ont pas de contrat. On a Rossi, on a Bikoff, on a Jobin en défense de Chavaya, Doufner, Connor, deuxième gardien. Donc, c'est la normalité, quoi. Tranquillement, ça prend. L'équipe prend forme déjà pour l'année prochaine. Tu as déjà ton noyau de joueurs qui est le même. Donc, je ne suis pas très inquiet.
Nathan, c'est pour quand? Je crois qu'on a une question oui. De Romain Diguer, notamment.
Je ne sais pas plus que lui. Donc, comme je l'ai dit, Nathan, c'est un gars que chaque joueur, c'est différent. Chaque statut est différent. Nathan, il faut comprendre que l'année passée, une saison exceptionnelle. Et puis, maintenant, faut avoir des confirmations. C'est seulement ça. Donc,
Mais disons que Nathan aimerait rester. Tu aimerais le garder.
Oui.
Là, c'est simplement de voir quel peut être son statut et par conséquent, son salaire aussi.
Exactement. C'est comme ça. Donc, on a parlé comme ça, mais pas plus. J'ai dit, moi, je veux voir le début de saison, comment ça allait aller. Nathan a une superbe saison régulière, des playoffs plus compliqués. À voir comment ça va commencer cette année.
Dans la liste des joueurs en fin de contrat, il y a aussi Rossi et Bikoff qui sont plutôt en quatrième ligne quand l'effectif est au complet. C'est voilà, des joueurs d'un certain âge. Est-ce qu'ils sont entre guillemets menacés parce que tu veux rajeunir un peu l'équipe, parce que peut-être qu'ils sont plus chers que d'autres? Ça veut dire qu'ils seront signés très tard en fin de saison. Comment tu vois ces deux joueurs qui ne sont pas, qui sont plus des leaders absolus de l'équipe?
Ben, si je prends le cas de Mathias, il y avait une double opération du genou la saison passée. Il avait pris un peu de temps avant de prendre son envol. Donc, il faut voir vraiment comment ça va aller. André, une saison coussi coussa. Ça a bien été. Ça a été voilà, son rôle est différent. Je le comprends très bien. Il joue à l'aile plus souvent qu'autrement. Il était très bon à 4 contre 5. Dans les playoffs, il a marqué des bons goals à 4 contre 5, justement. Donc, son rôle a évolué. Je pense qu'il le sait aussi. Je suis pas pressé de signer ces joueurs-là pour l'instant parce que je veux voir comment ça va aller, je veux voir comment l'équipe va aller. Donc, on est en train, avec Guerre, de tout évaluer ça. Puis, il n'y a pas de presse.
Mathias Rossi, c'est typiquement le genre de joueur qui va voir une différence sur sa fiche de salaire du fait qu'il y a 6 étrangers. Ça va changer pour lui.
Ben, je pense pour plusieurs. Et comme je l'ai dit, les gars qui sont toujours la hiérarchie plus basse ou dans le bas de l'alignement, si je peux dire, mais c'est sûr que ça a une incidence. Je pense que c'était le but de la Ligue aussi, de faire ça un petit peu, c'était de baisser ils l'ont tous dit, hein, baisser la moyenne de salaire des joueurs suisses. Donc, je pense qu'un top joueur va toujours être bien payé, mais un gars qui a un joueur de rôle, ben ça il va s'en ressentir un petit peu, oui.
Est-ce qu'elle a déjà baissé cette moyenne, tu as l'impression?
Oui, je pense que tranquillement, oui. Mais pas pour les tops, mais pour les joueurs de rôle, ça baisse un peu, oui. Par contre, le problème, c'est que tu prends cet argent, puis il y en a qui vont le dépenser sur les étrangers. C'est là que je dis qu'un cap salarial, un plafond salarial ferait toute la différence.
Mais sans ce qui se passe actuellement en Ukraine et les conséquences pour la KHL, tu penses qu'il y aurait eu des... six bons étrangers qui seraient arrivés, ou alors non. Ce serait un peu le plan initial?
Non, mais ça, c'est exactement les joueurs qui sont arrivés de... Regarde les joueurs qui sont, ils ont racheté leur contrat. Daniel Audette, Nordstrom, qui ont racheté, ils ont payé une somme faramineuse pour sortir de leur contrat. Ces gars-là seraient restés là-bas. La plupart des joueurs seraient restés en KHL. Mm-hmm.
Mais... Kokkanen serait peut-être allé en KHL aussi, par exemple.
Peut-être aussi, oui, exact.
Mais ça veut aussi dire, avec les joueurs qui sont venus en Suisse, que les clubs ont l'argent pour proposer des bons salaires. Parce que oui, ils reçoivent moins qu'en Russie, sans doute, mais ils sont quand même bien payés, ces joueurs.
Ben, t'as toujours des équipes qui ont, on l'a dit, il y a des équipes qui n'ont pas vraiment de limites. Quand il faut qu'ils engagent un joueur, ils trouvent toujours un moyen de trouver l'argent. Donc, quand t'as des mécènes en arrière, c'est un peu plus facile.
Très bien. Pour cette saison, il y avait encore une question en lien avec les notes que vous donnez, je crois, à chaque joueur, des notes évolutives en fonction de leur performance sur la glace. Vous le faites aussi pour les autres équipes, hein, les joueurs...
Non, mais on donne des notes sur... on analyse... C'est pas par match, hein, les notes. Les notes, c'est sur ce qui est arrivé, disons, l'année passée. On note chaque joueur, puis ça nous donne un peu un rating talent de chaque équipe.
Alors justement, ça se situe où le ranking de Gauthieron?
Je pense qu'on est d'une des équipes qui a profité de l'augmentation des six étrangers. Je pense qu'on se situe plus haut qu'on était avant.
C'est-à-dire?
Premier?
Plus haut qu'on était. Non. Alors, non,
vous n'étiez pas deuxième sur votre tableau.
Non, on se situe plus haut qu'on était.
Très bien. On termine par quelques petites questions un peu moins proches de la glace. Il y a notamment Mathieu, 24, qui demande quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur à Fribourg?
La finale contre Berne. Je jouais contre mes anciens coéquipiers. Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais je me rappelle un match, on arrivait à la maison, puis il était 4 heures l'après-midi. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient devant la patinoire. Donc, c'est des moments vraiment extraordinaires. La qualification contre Zurich, c'était incroyable. Donc, malheureusement, j'avais été blessé pour la finale. J'avais joué seulement 3 matchs sur 6, mais c'était vraiment extraordinaire.
On n'est pas sur la glace, mais plutôt, je pense, dans le vestiaire avec Alexandra Lirg qui demande si c'est facile de maintenir l'équipe, je pense, ensemble, soudée, et de pouvoir coacher les joueurs sans se faire critiquer.
Tu te fais toujours critiquer. Je veux dire, quelconque décision que tu prends quand tu es directeur sportif ou coach, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Donc, à un moment donné, tu essaies de prendre la température, comme on peut dire, dans le vestiaire, puis d'y aller pour que les joueurs ils embarquent. Mais moi, c'est ma manière de faire. Il y a plusieurs coachs, ils sont dictateurs, ils n'en ont rien à cirer de ce que les joueurs pensent. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je sais très bien que quand je prends des décisions, des fois, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde.
Sans transition, question culinaire de Florian Donzala. Est-ce que tu as déjà testé la poutine avec du vrai fromage d'ici?
Vrai fromage suisse?
Ouais.
Non, jamais. C'est quoi le vrai fromage d'ici?
Ah, Dieu. On va pas se risquer. Il y en a deux.
Regardez sur les maillots de tes joueurs.
J'habite dans une des régions, de ces régions. Non, j'ai jamais testé avec du fromage d'ici.
Merci pour cette réponse.
Peut-être que Florian Donzala a testé, qui pourra nous dire si c'est bon ou pas. Il a peut-être même comparé avec la poutine québécoise. Voilà, on termine sur cette question culinaire. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été disponible quelques instants pour ce nouveau podcast. La saison est quand même assez excitante, je pense, pour tout le monde. Aussi pour toi, l'attente est toujours longue quand même à l'intersaison. Et puis cette préparation, ces matchs amicaux, donc là... C'est parti.
Non, exact. On est toujours excité quand tu as une nouvelle équipe qui arrive, des nouveaux joueurs. Donc, tu penses toujours à chaque année t'être amélioré. Donc, tu as hâte de voir ce que ça donne sur la glace. Et puis, je pense que déjà avec la Champions League, ça nous donne un bon aperçu qu'on a une équipe qui devrait tenir la route. Donc, on est très excité de commencer vendredi.
Voilà, on termine sur ces bons mots. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Christian.
Merci.
À la semaine prochaine. Et d'ici là, je m'en vais confectionner ta carte de fidélité pour le prochain podcast. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir. On sera attentif. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.
Bye bye.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.